Quand vous commencez à dire j'aime dans la mesure où je connais, attention, attention, il y a quelque chose qui ne marche plus. Vous n'avez pas compris que l'amour seul justifie l'amour. Alors vous allez me dire, c'est terrible, alors à ce moment-là, c'est terrible, je dois entrer dans l'irrationnel. Non, non, ce n'est pas l'irrationnel. Au-delà de la raison, il y a la volonté aimante, il y a le cœur. Et l'amour spirituel n'est pas irrationnel, il est suprarationnel. Pas du tout la même chose. Il est suprarationnel, il vous donnera une lumière plus grande que toutes les analyses que vous pouvez faire. Il vous fera comprendre quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'il fera comprendre le lien avec une personne même. Avec une personne divine. C'est encore beaucoup plus vrai quand il s'agit de Dieu. Les deux se tiennent, n'est-ce pas? C'est le lien cordial, le lien affectif qui me lie au bien que je découvre. Et c'est ce bien qui m'attire. Et c'est ce bien vers lequel je tends. Et c'est ce bien qui, de plus en plus, est proche de moi. Plus je suis attiré par lui, plus il est proche de moi. Et plus je suis un avec lui. Donc, premier moment de la volonté, hein, ça c'est très très important. La volonté, c'est une capacité d'aimer. Dans ce sens-là, on peut dire que cet appétit spirituel qu'est la volonté, c'est vraiment mon cœur spirituel. Et donc les rapports entre l'intelligence et la volonté doivent se voir là, dans ce premier moment de ce premier amour de complaisance. Immédiatement après, c'est important de voir ça pour saisir ce que c'est que la volonté. Immédiatement après, ce bien va se transformer en ma faim. Là, nous voyons ce que nous voyons dans l'analyse de l'acte humain. Et je crois qu'il est important pour saisir toute la richesse de la volonté, il faut tout de suite comprendre que ce bien va se transformer en faim. C'est pas la même chose, hein? Le bien et la faim, la finalité. Toute finalité repose sur le bien. Toute finalité repose sur le bien. Mais tout bien n'est pas faim. Bien comprendre. Autre chose est de considérer ce bien comme ma faim. Autre chose est uniquement de le considérer comme le bien. Il y a là un passage très important à bien saisir. Hein? Très important. Vous allez le comprendre. Dans notre vie humaine, c'est le passage de l'amour avec ce qu'on appelle, au point de vue moral, l'intention. L'intention regarde la fin. Alors, il faut bien saisir la différence entre l'amour et l'intention. Ce n'est pas la même chose. C'est très proche. Il n'y a pas d'intention sans amour. Mais il peut y avoir un amour à l'état tout à fait pur, au-delà de l'intention. Normalement, notre amour, l'amour spirituel que nous avons, se traduit dans l'intention qui mobilise toute notre vie. Mais c'est important de bien voir le passage entre les deux. C'est que le bien, c'est ce qui nous attire. La faim, c'est ce qui permet d'organiser toute notre vie. Nous organisons toute notre vie auprès de nos intentions. Et c'est très différent d'organiser sa vie auprès de l'intention, unifier sa vie, quand on dit, n'est-ce pas ? Unifier sa vie. On unifie sa vie par l'intention. La pureté d'intention. La pureté du cœur, c'est de faire qu'il n'y a qu'une seule intention en moi. Ça prend tout et ça mobilise toutes mes forces. C'est pour ça que l'intention est quelque chose qui va concrétiser l'amour, faire que l'amour va de fait devenir quelque chose de palpable. L'amour dans ce qu'il a de plus profond, je vous disais tout à l'heure le duvet, hein? Ah oui, le duvet, la chaleur du duvet, le duvet dans le nid, au plus intime de ma volonté, il y a cela, cette capacité d'aimer. C'est très très bien cela, mais il y a un très grand danger, c'est que ça se corrompt. Le très grand danger de l'amour spirituel, c'est de se transformer en velléité. Et ça arrive, il faut le reconnaître, ça arrive ces choses-là. Et tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours une possibilité de transformer cet amour spirituel en velléité. Qu'est-ce que c'est que la velléité, hein? La velléité, c'est un amour qui devient imaginaire. C'est l'imaginaire qui l'emporte et qui me fait planer. C'est le planeur, le velléitaire, c'est extraordinaire. C'est peut-être très astucieux, hein. Il y a des planeurs qui sont merveilleux, quoi. Ils captent les courants d'air, et ils vont aller comme ça, ils montent, ils descendent, selon les différents courants. C'est beau à regarder un planeur. Ça fait toujours penser au velléitaire, au planeur. C'est extraordinaire, ça. Des grands velléitaires, c'est pas des grands velléitaires. Alors le planeur, il saisit, enfin, c'est s'il est astucieux, il saisit tout de suite les courants d'air. Alors à certains moments il monte parce que l'air va de ce sens-là, puis à d'autres moments il descend et on lui demande pourquoi, ah je sais pas. C'est tout simplement parce qu'il y a un courant d'air, tu vois, comme ça. Ça c'est le velléitaire. Le velléitaire c'est l'imaginaire qui intervient. L'imaginaire c'est la connaissance, hein, l'imagination faut pas l'oublier. La connaissance où on palpe les différents niveaux. Un être imaginaire, saisit tout de suite. Oh oui, oh oui, je vois très bien les orientations. C'est très curieux l'imagination, au service de l'amour. Il fait qu'à ce moment-là, l'amour, à la place de regarder le bien spirituel, va transformer ce bien en idéal. Alors j'ai un idéal de vie. Ah oui, j'ai un idéal de vie. J'ai un idéal de vie, vous planez. Un idéal de vie très élevé, c'est évident, c'est le plus élevé que tous. J'ai pris, parce que si c'était un idéal, il demande d'être le plus élevé, autrement c'est plus un idéal. L'idéal ira toujours vers le maxime étalé, le plus élevé de tous. Alors l'idéal, ça consiste justement à s'élever le plus haut possible pour dépasser tous les autres. C'est pas dit, mais au fond il y a quand même ça, il y a quand même ce point de vue-là, dépassant tous les autres grâce à ce fait qu'on a bien capté le courant d'air. Au plan spirituel, transformer ça au plan spirituel. Alors la velléité, c'est transformer le bien spirituel en un idéal de vie. Alors on choisit un idéal de vie. Vous voyez la très grosse différence, hein? C'est qu'un idéal de vie, ça vient de vous. Tandis que le bien spirituel, il existe avant vous. C'est pas tout à fait la même chose, hein? Le bien spirituel, c'est une personne. Transformer ça au plan spirituel, au plan de notre vie divine, c'est très très net. La personne que nous aimons, c'est le Christ. C'est lui qui nous a aimés le premier. Et nous l'aimons. C'est la personne du Christ. C'est Jésus que nous aimons. Et nous sommes reliés à lui. Et c'est lui qui nous attire. C'est une personne vivante qui existe avant nous. Et notre foi qui remplace notre intelligence là, notre foi qui est une connaissance qui nous aide à adhérer à lui, notre foi nous aide à l'aimer. Et nous voulons le connaître davantage pour l'aimer plus. Mais toute notre connaissance est au service de cet amour. Et cette connaissance demeure toujours liée à cette personne. Tout d'un coup, sous des prétextes multiples, du reste c'est très curieux, c'est très très difficile de savoir à quel moment le point de vue imaginaire intervient dedans. Au plan surnaturel, c'est sûrement une tentation. Il y a eu une tentation. On s'est laissé tenter. On s'est laissé prendre dans le point de vue de l'imaginaire. Alors, à la place de regarder le Christ, on regarde un idéal de vie. Un idéal de vie solitaire, un idéal de vie commune, d'accueil, un idéal de... Vous voyez, on perd le réalisme, mais on regarde un idéal. Alors, les uns sont pour... Le maxime étalé, c'est la vie solitaire. C'est ça qui est le plus élevé. L'idéal le plus élevé. Donc c'est celui-là que je choisis. Tout simplement parce que c'est l'idéal le plus élevé. Je ne dirais pas parce que c'est là où j'aime le plus le Christ. Non, c'est l'idéal le plus élevé. Au contraire, on dira non, c'est l'accueil. C'est plus proche d'une vie apostolique. Comme ça. Donc c'est l'accueil. Donc ce sera l'idéal de vie. Je pense à concrètement, hein, parce que c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Alors, à ce moment-là, à la place de regarder une personne, et à la place de regarder une personne, je regarde mon idéal. J'ai transformé le bien spirituel en un idéal qui vient de moi. Et c'est cet idéal qui vient de moi qui me capte, qui me saisit. C'est vrai, on verrait exactement la même chose par rapport à la méditation et la contemplation. On aime mieux réfléchir sur la parole de Dieu que le mystère. Parce que ça peut très bien se faire dans la méditation, ça. La méditation poussée à l'extrême peut très bien conduire à un idéal. L'idéal de la méditation, la parole de Dieu. Attention, la parole de Dieu, c'est une personne vivante, c'est le Christ. C'est le Christ que nous regardons et que nous aimons. La parole de Dieu, si elle ne conduit pas au Christ, elle peut devenir rivale. Et elle peut devenir mon idéal. J'ai un idéal de connaître parfaitement la parole de Dieu. La connaître le mieux possible. Je m'enferme dans cet idéal. Je serai l'homme de la parole de Dieu. Idéal. Parce que l'idéal se nourrit hein, de quelque chose. Alors, ça devient à ce moment-là rival de la personne. Le Christ est mon bien. Et la parole de Dieu me conduit au Christ. Et je regarde la parole de Dieu en fonction du Christ. Hein. Je ne regarde pas pour elle-même. Regarder la parole pour elle-même, c'est mon idéal. C'est très très curieux ça. Alors à ce moment-là, ce n'est plus la parole vivante qui vient d'une personne. Cette définition merveilleuse que donne saint Thomas à propos de la parole vivante, c'est celle qui est unie à la source. Donc, elle sort directement de la personne, parole vivante. Tandis qu'au contraire, si je regarde l'écriture, je regarde la parole en elle-même. Et regardant la parole en elle-même, je peux l'idéaliser. Je peux très bien idéaliser. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a reçu une lettre d'un ami, alors, prenez l'exemple du fiancé, de la fiancée. Bon, j'ai reçu une lettre admirable de ma fiancée. Admirable, cette lettre. Au premier moment, la lettre était faite pour m'unir à lui, ou m'unir à elle. Et puis au moment où j'admire cette lettre, je regarde la lettre en elle-même, et je l'admire. Aucun fiancé n'a reçu une lettre aussi admirable de sa fiancée. Alors à la place que la lettre soit le lien avec celui qu'on aime, la lettre devient à ce moment-là quelque chose qui m'arrête. Et je regarde tout ce qu'on représente. D'admirable cette lettre. Et si vous pouvez comprendre ça, parce que c'est très subtil, hein, on touche des choses très subtiles, là, qui sont capitales, le passage de l'amour qui me lie à une personne et l'idéalisation, c'est la corruption d'un amour. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça corrompt l'amour. Ça peut être au point de vue d'ordre artistique, ça peut être très très beau. Au point de vue de la forme, ça peut être très très beau. Mais c'est quand même une corruption de l'amour. Parce que l'amour, c'est l'attraction du bien réel, personnel, de la personne sur moi. Je suis attiré par une personne vivante. Par une personne qui m'appelle. Par une personne qui m'aime. Je suis attiré par elle. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de cette idéalisation, c'est le moyen par lequel cette personne se sert pour se communiquer que je coupe du lien avec elle et que je regarde pour lui-même. Alors, j'idéalise. Et cette idéalisation se fait par l'imagination. Et à ce moment-là, ce n'est plus un mot, c'est de la velléité. Et alors, dans la velléité, très très souvent, ce qui passe, c'est le primat de l'intelligence sur le cœur. Parce que c'est ça au fond, la velléité au grand sens, hein, pas des petites velléités, mais quelque chose de très grand, c'est que j'aime mieux un idéal de vie. Alors à ce moment-là, c'est la connaissance que j'ai de cet idéal de vie qui l'emporte sur ce lien personnel. Il y a là quelque chose d'extrêmement important à saisir, dans notre vie, concrètement. Et je crois que c'est peut-être là les plus grandes purifications de l'Esprit Saint. Les plus grandes purifications de l'Esprit Saint, c'est vraiment arriver à faire que notre cœur soit un cœur pur. C'est-à-dire un cœur qui aime uniquement la personne qui nous attire. Et que nous arrêtions jamais à la connaissance que nous avons de cette personne. Pour la connaissance, il faut cette connaissance, mais il ne faut pas s'y arrêter. Dès que je m'y arrête, il y a un danger de m'y complaire. Et dès que je m'y complais, je fais mon idéal de vie. Et alors à ce moment-là, l'amour se change en velléité. Ça, c'est un très très gros problème et très important, parce que ça fait comprendre la corruption de cet amour qui pourtant est la chose la plus grande. Et c'est comme, c'est normal, hein? Les choses les plus profondes, ce sont toujours les choses les plus vulnérables. L'amour qui est ma force est en même temps ce qui est le plus vulnérable en moi. Ça, c'est sûr. C'est la chose la plus difficile à maintenir dans toute sa limpidité. C'est la chose la plus difficile. C'est d'aimer et d'aimer toujours plus. Et d'aimer toujours plus d'une manière réelle et profonde à l'égard d'une personne qui m'attire. Alors, une fois qu'on a compris ce moment intermédiaire, ce moment qui me fait aller vers l'idéal, à la place de regarder la personne, à la place de regarder le bien spirituel. Si je regarde vraiment le bien spirituel, ce bien spirituel, je veux être uni à ce bien spirituel. Vous voyez, le passage de l'union affective à l'union réelle se fait par l'intention de vie. S'il n'y avait pas un hiatus entre l'union affective et l'union réelle, il n'y aurait pas possibilité de velléité. Mais c'est parce que, de fait, ce bien réel vers lequel je tends, je ne le possède pas entièrement. Il est loin de moi. Il s'agit de faire que toute ma vie tende vers lui. Il s'agit de considérer que ce bien réel, cette personne qui m'attire, soit ma fin. C'est-à-dire mobilise toutes mes forces pour que j'aille vers ce bien, pour que je puisse tendre vers lui. Alors voyez, ce passage de l'union affective à l'union réelle, au sens le plus fort, la présence de celui que j'aime, l'union réelle, eh bien ce passage entre les deux va se réaliser grâce à l'intention de notre vie. C'est là la grandeur de l'intention. Là, je vais m'arrêter un tout petit peu, si vous voulez, pour comprendre un peu ce que représente cette intention. Cette intention ne pourrait être gardée que dans l'amour. C'est quelque chose de tellement grand, cette intention, que ça ne peut être gardé que dans l'amour. Ça vient de l'amour, mais ça ne peut être gardé que dans l'amour. Alors, promenez toutes les intentions de votre vie. J'ai l'intention de... Enfin, l'intention dominante, si vous voulez, de votre vie, pour concrètement... c'est de rejoindre plus le Christ, d'être plus proche de Jésus. C'est vraiment ça. Au début du carême, quelle est notre intention de nous convertir, Nous avons l'intention de nous convertir. Si nous entendons Jean-Baptiste, nous avons l'intention de nous convertir. Convertir notre cœur. Convertir notre cœur au Christ. Ça, c'est une intention. Convertir son cœur, oui, c'est pas l'amour. Mais c'est commandé entièrement par l'amour. Si vous aviez cette intention sans l'amour, ça ne signifierait rien du tout. Et ça ne pourrait rien signifier du tout. Mais cette intention, elle est née de l'amour et elle est tout entière au service de l'amour. Elle est pour que l'amour puisse s'emparer davantage de notre vie. Donc l'intention, c'est une mobilisation de toutes nos forces. Ça, je disais tout à l'heure, c'est notre amour qui se concrétise. L'intention. C'est notre amour qui se concrétise. On mobilise toutes nos forces en vue de s'unir au bien spirituel. En vue de s'unir à la personne aimée. Toutes mes forces, pourquoi sont-elles mobilisées? Parce que justement, je l'aime, mais je ne suis pas assez uni à lui. L'union affective n'est pas encore l'union réelle. Vous voyez, le réalisme de l'amour. Le réalisme de l'amour se manifeste dans cette intention. C'est l'intention qui me fait comprendre mon réalisme d'amour. Celui qui n'a pas d'intention de vie risque toujours de faire que l'amour qu'il a, l'amour spirituel, l'amour divin, se corrompt dans un idéal. Très curieux qu'un idéal ne mobilise pas toutes nos forces.
au sens rigoureux.
Un idéal ne mobilisera qu'une partie de nos forces.
Tandis qu'au contraire, l'intention de vie doit mobiliser toutes nos forces, doit convertir notre cœur.
Et dans l'intention, il y a cette conversion, c'est-à-dire que tout est saisi en vue d'atteindre ce bien qui se présente à moi comme ma fin, comme ce qui me finalise. Alors vous voyez comment se fait ce passage, entre cet amour spirituel, ce bien spirituel qui m'attire, et ce bien qui devient ma fin. Entre cet amour premier et cette intention de vie. Comment se fait ce passage? Là, l'intelligence joue un rôle très important. C'est l'intelligence, une intelligence réaliste, une intelligence impliquant le jugement d'existence, puisqu'il s'agit d'amour. C'est l'intelligence qui me fait comprendre l'abîme qui existe entre cet amour, cette union affective et la distance qui existe entre la personne que j'aime et moi-même. C'est l'intelligence qui me fait comprendre ça. C'est pas l'amour, puisque l'amour implique l'union affective. C'est donc l'intelligence qui, à l'intérieur de l'amour, de cette union affective, me montre la distance qui existe entre celui que j'aime et moi-même. Et l'intelligence est là pour, dans le réalisme même, me montrer que je dois, puisque j'aime, être fidèle à cet amour. Et être fidèle à cet amour se traduira de considérer que ce bien que j'aime soit ma fin. Très mystérieux, la fidélité. La fidélité à l'amour, c'est de considérer que le bien qui m'attire devienne ma fin. C'est-à-dire me finalise, c'est-à-dire arrive à faire que toutes les forces qui sont en moi, toutes les énergies qui sont en moi, soient mobilisées en vue d'atteindre ce bien. Aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de tout son potentiel de vie, quand même. Et là, nous passons de l'amour à la réalisation première. C'est une première réalisation, si vous voulez, l'intention. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort, parce que ça nous fait comprendre comment, à l'intérieur de l'union affective, l'intelligence, sans supprimer du tout cette union affective, mais à l'intérieur de cette union affective, l'intelligence là est entièrement au service de l'amour pour comprendre la distance qui existe entre la personne que j'aime et moi. Ça, c'est une très grande lucidité. C'est la lucidité de l'intelligence. Et cette lucidité de l'intelligence, c'est peut-être très dur à porter. C'est sûr, c'est pas commode à porter, de voir la distance qui existe entre l'être aimé et moi-même. Mais c'est d'autre part absolument nécessaire pour que je puisse tout faire pour répondre à cette attraction d'amour. Donc, fidèle. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? La fidélité, c'est répondre entièrement à cette attraction d'amour. Et d'y répondre le plus que je puis. Donc c'est l'intelligence qui me permettra d'être fidèle. Sans l'intelligence, il n'y a pas de fidélité. Et très très facilement, l'amour se corrompt en amour, justement, vanitaire, qui n'a plus cette lucidité. Alors là, il y a quelque chose qui me semble aussi très important à souligner. Cette lucidité de l'intelligence qui maintient le réalisme dans l'amour spirituel et qui fait comprendre ce que c'est qu'une intention de vie. L'amour du cœur et l'intention de vie. Oui, c'est pas pour rien qu'on dit une intention de vie. Et c'est pas pour rien qu'on parle de l'amour du cœur. Parce que l'amour du cœur, c'est justement ce qu'il y a de plus profond, de plus secret. Mais l'intention de vie mobilise justement toutes les forces. En vue d'atteindre ce bien, en vue d'être unis à ce bien. Donc là, nous voyons le point de vue de l'intelligence qui intervient. Si nous voulons aller plus loin, toujours pour essayer de comprendre, tout ça c'est l'acte volontaire. C'est dans l'acte volontaire. L'intention de vie fait partie de ma volonté. L'intelligence est très présente, peut être très lucide dans ses intentions, mais c'est quand même enveloppé par l'amour. On ne peut pas séparer cette intention de vie de mon amour. C'est donc à l'intérieur de mon amour. Et plus mon amour grandira, plus mon intention de vie normalement s'intensifiera. Les deux choses vont ensemble. Normalement, avec toujours la possibilité de la distraction. La fameuse chose de Plotin, il ne faut pas l'oublier. Cette chose extraordinaire de Plotin. Comment se fait-il que tu oublies la source divine dont tu dépends? La distraction. Et la distraction permet l'intervention, ou plus exactement, la distraction, c'est l'intervention de l'imaginaire à la place de l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas présente au service de l'amour, c'est l'imaginaire. L'imaginaire qui vient corrompre ce premier amour en le temps tournant dans le nez. L'intelligence au service de l'amour va pousser plus loin encore.
Il faut me dire quand tu vas arrêter. Parce que je ne sais pas comment la convaincue la bonne vie. La bonne vie, c'est très bien, c'est merveilleux.
Si vous en avez de les noter, c'est toujours bon pour progresser. Et puis il faut bien se dire que les questions qu'on a, que l'un a ou que l'une a, c'est toujours les autres aussi qui les ont. Parce que c'est vrai, ce sont des problèmes difficiles et en même temps très importants. Parce que c'est toute notre vie qui est engagée là. C'est Dieu. Supprime pas la nature humaine. Donc toute notre structure profonde au niveau volontaire demande d'être constamment purifiée. Nous le verrons surtout en voyant la blessure du péché. Donc continuons à essayer d'analyser les différents moments de l'activité volontaire en vue de saisir d'une manière plus parfaite ce qu'est la boulessie. C'était la volonté. Alors, je vous disais, premier moment, l'amour qui regarde le bien spirituel, c'est-à-dire la personne. Alors, c'est ou la personne humaine ou Dieu. Pas 36 biens spirituels, vous savez. La gloire n'est pas un bien spirituel. Il ne faut pas l'oublier, c'est un faux bien spirituel. Ça fait partie justement d'une espèce d'idéal qui peut nous transférer. Et alors je vous avais vu, j'avais montré tout de suite, c'est important, l'influence de l'imaginaire, et on comprend très bien comment se fait l'influence de l'imaginaire, puisque cet amour à l'égard du bien spirituel implique l'intelligence, implique la connaissance. Dès qu'il y a connaissance, il peut y avoir déformation par l'imaginaire. Si l'amour était un amour aveugle, comme lorsqu'il s'agit de l'appétit instinctif, où il n'y a pas besoin de connaissance, alors à ce moment-là, il n'y a pas d'imaginaire. Dès que la connaissance intervient, l'imaginaire peut intervenir. C'est ça que l'imaginaire intervient au niveau passionnel. Et l'imaginaire peut intervenir jusqu'au niveau de cet amour spirituel, cet amour de complaisance. De complaisance à l'égard du bien. Cet amour qui me connaturalise au bien connu, à la personne que j'aime, et qui me met en moi cette harmonie profonde entre justement le bien et moi-même, ma volonté. Et alors, cet amour présuppose la connaissance qui permet à ce bien de m'attirer. Donc la causalité propre du bien, c'est l'attraction. Et on dit ça, c'est très difficile de dire autre chose, ça reste toujours très mystérieux et très difficile à expliquer. Je suis attiré par le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis attiré par le bien, je suis pris. Je ne dis pas séduit, hein. Je dis attiré par le bien. Je serai séduit par le beau. Alors c'est justement quand l'imaginaire intervient et transforme cet amour en velléité. La velléité,
c'est justement la transformation du bien réel existant en un idéal.
Ça, c'est très très important. Ce moment de... qui peut toujours exister. Hein. Et plus on est spirituel, plus ça peut exister. C'est pas tellement. On comprend très bien. Parce que là, il y a une tentation. Hein. Ça, c'est évident qu'il y a une tentation. Au plan théologique, on peut dire que le démon agit sur notre imaginaire. C'est le prince de l'imaginaire, hein, le démon. C'est pas le prince de l'intelligence. Non. Si l'intelligence reste réaliste, le démon ne peut rien dire. Mais dès que l'intelligence s'idéalise, le démon agit. Ça, je crois tout de suite. Ça, c'est le propre de la rectification de la réalité par rapport à l'intelligence qui fait que l'intelligence, là, le démon ne peut rien. Le démon ne peut rien sur la réalité, mais il peut sur le domaine de l'imaginaire. Et alors, l'intervention de l'imaginaire... dans cette intelligence qui est au service de l'amour, qui fait qu'à ce moment-là, à la place de regarder le bien existant, la personne existante qui existe avant moi, qui m'attire, qui est le bien qui existe en dehors, l'autre, je regarde cet idéal que je forme en moi. Je le forme en moi, cet idéal. Et cet idéal que je forme en moi, je le possède par le fait même. C'est mon idéal. Et là, il y a une séduction. Alors là, vraiment, là, la séduction joue dans l'ordre de la velléité. C'est plus justement une intelligence réaliste, c'est une intelligence qui se replie toujours sur elle-même. C'est propre de l'imaginaire. L'imagination, c'est une connaissance qui se replie sur elle-même. Parce que c'est une intelligence qui ne peut être parfaitement elle-même que dans cette attitude de repliement. Cette attitude de repliement peut du reste impliquer un dynamisme fou. Bien, ça, c'est évident, les deux choses vont ensemble. Mais c'est une attitude de repliement, c'est pas l'attitude du tout de se regarder la réalité telle qu'elle est. Si je dépasse ce stade de la velléité, que je mets entre parenthèses, comme un stade justement dangereux, l'amour se transforme en intention. Grâce à l'intelligence intervient pour donner à l'amour tout son réalisme. Ça, c'est extrêmement important. À bien saisir la transformation du bien en fin. Encore une fois, c'est une analyse que nous faisons. Hein. Dans la réalité, tout ça se tient très très fort. Hein. Et quelquefois, ça n'aperçoit même pas. Mais dès que nous réfléchissons un tout petit peu, nous pouvons très bien saisir ces structures profondes du volontaire. Ce sont les structures profondes du volontaire. Le volontaire ordonné, c'est la volonté, si vous voulez, la volonté amour, ordonnée au bien. Ça, c'est le premier ordre. La volonté tout entière ordonnée vers le bien. Elle est faite pour le bien. Elle est cette capacité d'aimer. Et l'amour représente ce premier moment de la volonté. Premier moment de la volonté. Ce second moment de la volonté, c'est lorsque justement cet amour va se transformer en intention. Se transforme normalement en intention, puisqu'il y a une distance entre le point de vue de l'union affective à ce bien que j'aime, à cette personne que j'aime, et que je suis distinct d'elle. Et donc, je dois m'approcher d'elle. Et pour m'approcher d'elle, il faut l'intention. Alors, l'intention, c'est la mobilisation profonde de toutes mes forces. C'est pour ça que je dis que c'est le réalisme de l'amour, l'intention. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a une caricature aussi. Quand je suis, c'est justement là où va commencer à apparaître le volontarisme, c'est très curieux. C'est avec l'intention qu'apparaît le volontarisme, jamais avec l'amour. Jamais, l'amour, il n'y a pas de danger. Une volonté qui aime ne peut pas tomber dans le volontarisme. Tandis que dès que l'intention apparaît, le volontarisme peut apparaître. Qu'est-ce que c'est que le volontarisme? Le volontarisme, c'est un primat d'une volonté sur l'amour. C'est très curieux. Non ? À l'intérieur même de la volonté, il peut y avoir un désir d'efficacité. Et non, ce n'est plus l'amour premier qui attire. Alors il y a le point de vue de l'efficacité. C'est ça le volontarisme. Alors on trouve ce volontarisme d'une façon très nette chez les stoïciens. Le volontarisme des stoïciens est très très net. Et c'est une volonté d'efficacité. Or il peut très bien se faire, c'est là où c'est très important de bien comprendre ce moment de l'intention. Il peut très bien se faire que si cette intention se coupe de l'amour, si cette intention, si vous voulez, reste uniquement une volonté d'atteindre, c'est bien d'atteindre la fin. Il faut à tout prix atteindre la fin. Une volonté de perfectionnisme, parce qu'on verrait ça, une volonté d'atteindre la fin, il faut à tout prix que j'atteigne, et que j'atteigne même en premier. Alors, on a à ce moment-là une coupure entre l'intention et l'amour. L'intention quitte le point de vue de l'amour pour ne plus regarder que l'efficacité. C'est ça le volontarisme. Vous allez voir apparaître l'efficacité de plus en plus. À l'intérieur de la volonté, il y a une certaine efficacité dans l'intention. Un homme d'intention, une femme d'intention, elle sait ce qu'elle a dans la tête et dans le cœur. Et alors, elle mobilise toutes ses forces pour ça. Et ça lui donne une très grande force et une très grande lucidité. Et c'est très vrai que la béatitude des cœurs purs implique une intention rectifiée et implique cette mobilisation de toutes mes forces. Autrement, je ne suis pas vraiment un être volontaire. Je tombe dans la velléité. Mais il y a un danger justement de l'intention de tomber uniquement dans l'efficacité. Je veux à tout prix atteindre cette fin. Je veux, vous voyez, la volonté qui réapparaît avec toute sa force et sa force de conquête. Alors qu'en réalité, l'intention unie à l'amour est toujours au service de l'amour. Je veux être uni à ma fin, qui est le bien spirituel, qui est cette personne que j'aime, pour l'aimer plus. Et donc l'intention est toujours commandée par un premier amour, et elle est toujours ordonnée un amour plus profond. C'est pour aimer plus. Donc cette intention demeure toujours au service de l'amour. Dès qu'elle se sépare de l'amour, elle risque de tomber dans le volontarisme. Second mal, je crois que c'est intéressant de voir toujours les abus. Hein, parce qu'il y a les deux abus qui sont deux abus diamétralement opposés. Le tomber dans la velléité et tomber dans le volontarisme. La velléité, c'est le dilettantisme, qui peut être un dilettantisme artistique, qui peut être un dilettantisme intellectuel, qui peut être, venez, c'est mon idéal. Alors c'est ça que je veux au-dessus de tout. C'est un dilettantisme par rapport à l'amour profond. Et puis le volontarisme, au contraire, qui est juste l'inverse du dilettantisme, qui est cette volonté de l'emporter, d'atteindre le but, d'atteindre la fin. D'un côté, c'est l'intelligence qui l'emporte, une intelligence liée à l'imaginaire, justement dans cette velléité. Et de l'autre côté, c'est l'imagination qui se coupe de l'amour et qui veut dominer. Alors là, vous avez les deux extrêmes qui nous font comprendre les bavures de la volonté. Les bavures de la volonté, c'est de tomber dans la velléité ou de tomber dans un certain volontarisme. On voit très bien. Et il faut maintenir cet équilibre qui est toujours très difficile, cet équilibre profond de l'amour et de l'intention. Et cet équilibre se fait grâce à l'intelligence. L'intelligence respecte qu'avant l'intention, il y a l'amour qui m'unit à mon bien. Et ma fin, c'est ce bien. Et donc, il faut sauvegarder ce premier amour. Il faut tout faire pour sauvegarder ce premier amour. Mais quand on parle de l'église d'Éphèse, hein, garder le premier amour. Garder le premier amour, c'est vraiment ça. Et si vous regardez attentivement la correction qui est faite à l'église d'Éphèse, c'est qu'on voit très bien tomber dans le volontarisme. Je respecte tout ce que tu fais bien, tu fais des choses merveilleuses, tu multiplies les choses, c'est très très bien, mais le premier amour n'est plus là. Le premier amour n'est plus là. Le premier amour, c'est cet amour fervent. C'est cet amour de la personne pour la personne, c'est-à-dire du bien pour le bien. Et c'est l'union affective qui domine, qui l'emporte. Parce que cette union affective, c'est ce premier amour. C'est mon cœur qui accepte d'être transformé en connaturalité avec le bien que j'aime, et je considère que la chose la plus grande, c'est de garder comme un secret ce lien. Que tout le reste, pour la réalisation être plus proche, c'est second. C'est très important, c'est essentiel, mais c'est second, c'est pas premier. Le volontarisme est une chose, on le verra, parce que le volontarisme va apparaître successivement comme une espèce d'efficacité qui veut l'emporter. Troisième moment de l'acte humain, dans le volontaire, toujours la volonté. Troisième moment, c'est que si j'ai l'intention de réaliser, d'atteindre ma fin, et de l'atteindre de la manière la plus efficace qui soit, il faut nécessairement voir comment je peux l'atteindre. C'est le comment à l'égard des moyens. Ça, c'est très important. Les moyens. Vous comprenez que les moyens, c'est un bien utile, un bien intermédiaire. C'est un bien qui n'a de sens que par rapport à la fin. La distinction entre les moyens et la fin, c'est une distinction très très fondamentale et très importante, qui montre là l'intelligence au service de l'amour. Parce que si l'intelligence n'est pas au service de l'amour, au bout d'un certain temps, je confondrai les moyens et la fin. Et la confusion des moyens et de la fin, c'est la plus grande des perversités, au point de vue profond. C'est ça qui va le plus contre la béatitude des corps purs. C'est la perversion entre les moyens et la fin. Donc c'est très important de saisir ce que c'est que les moyens, comparativement à la fin. Le moyen, c'est justement un bien qui est aimé toujours en fonction d'un autre, et pour un autre. C'est la définition même du moyen. Le moyen, ce n'est pas ce qui est voulu pour soi. Ce n'est pas ce qui est aimé pour soi. C'est toujours ce qui est aimé à cause d'un bien supérieur qui m'attire. Un bien supérieur que je considère comme absolu, qui est la fin. Et c'est là où je saisis bien ce que c'est que la fin. Le bien fin est voulu pour lui-même. Tandis qu'au contraire, le bien qui n'est qu'un moyen, est toujours voulu en fonction d'un autre. Il est toujours voulu pour un autre. C'est ça le moyen. Vous voyez, prenez concrètement dans la vie chrétienne. Hein, on dira par exemple, pour arriver à l'union au Christ, il y a les moyens évangéliques, il y a les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques, il y a le respect à l'égard de la loi. Pas un iota de la loi ne disparaît. Donc, la loi fait partie des moyens. La loi est faite pour me rendre vertueux. Ce sont des moyens. Être vertueux, ce n'est pas une fin. C'est effrayant quand on fait de la vertu une fin. Non, je désire être dans la communauté la plus humble. C'est affolant. Vous finalisez toute votre vie sur l'humilité. Il n'y a rien de plus terrible que ça pour les autres. C'est devient effrayant. Vous prendrez toujours la situation la plus humble. Hein, et vous en faites vraiment comme quelque chose d'absolu. Même l'obéissance n'est qu'un moyen. L'obéissance n'est qu'un moyen. L'obéissance, c'est en vue de l'amour. C'est en vue d'acquérir la fin. C'est un moyen privilégié en vue de la fin. C'est sûr que c'est un moyen privilégié, mais c'est quand même pas une fin. Si vous faites de l'obéissance une fin, c'est quelque chose qui va plus. Vous allez devenir un robot. Bon, je sais bien que c'est entre les mains du Saint-Esprit, alors c'est encore. Mais quelquefois, il n'y a pas que les mains du Saint-Esprit. D'accord ? Alors quand il n'y a pas que les mains du Saint-Esprit, vous êtes obéissant d'une façon merveilleuse en disant, moi, je suis toujours là. Alors vous êtes toujours en tenue pour exécuter exactement ce qu'il faut faire. Et l'obéissance n'est pas une fin. La tempérance et l'esprit de pénitence n'est pas une fin. C'est un moyen. Si vous poussez la tempérance à l'extrême, l'esprit de pénitence à l'extrême, vous verrez ce que vous serez à la fin du carême. Et alors, c'est les autres qui en pâtiront. forcément, enfin, si vous tombez toute malade, ça, c'est les autres qui en pâtiront, ça ne peut pas être autrement. Alors qu'est-ce que vous... En réalité, ce n'est qu'un moyen. C'est un moyen en face de tout un but très profond. Le but pour nous, notre fin, c'est d'aimer plus le Christ. C'est toujours lui. Tout reste sous les moyens. La vie commune, et même, vous voyez, même la vie solitaire, c'est un moyen privilégié. Ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une fin. La vie solitaire n'est pas une fin. Si la vie solitaire était une fin, alors le Christ disparaîtrait progressivement, il n'y aurait plus que la solitude. L'amour disparaîtrait, il n'y aurait plus que la solitude. Alors il y aura un vide dans la solitude. Il n'y aurait plus que ça. Ce n'est pas une fin. Ça peut être des moyens privilégiés. Alors là, il y a un problème très très important pour nous, vous voyez, au point de vue de la volonté, au point de vue de l'éducation de la volonté. Où faire porter notre effort? Parce que notre capital de vie est limité. Notre capital de vie, c'est justement notre capacité volontaire. Vous avez une certaine volonté, si je pouvais la mesurer, hein. On pourrait alors graduer, première table, ceux qui ont une volonté déjà de faire, et puis ceux qui l'ont moins, c'est vrai, progressivement. Et au fond, le noviciat est fait pour perfectionner votre volonté. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, hein, la volonté, elle n'est pas très très éduquée. Il faut bien le voir comme elle est. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour éduquer notre volonté. Alors, de fait, notre volonté...